Alors, tout d'abord, remettre ces moments. Seigneur, nous sommes ici réunis pour entendre ta parole. Nous te demandons de faire la place dans nos cœurs, faire la paix, pour que nous soyons au bénéfice de tout ce que tu nous as à enseigner. Et nous voulons te remercier par avance de tout cela, te remercier d'avoir pris soin de chacun. Amen. Amen. Ce soir, on parlera un peu de l'incrédulité. Et pour ce faire, on lira deux textes. Tout d'abord, dans Luc 24, les versets 1 à 12. Luc 24, 1 à 12. Après la résurrection du Seigneur. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et on complétera ce passage par Marc 16, les versets 1 à 14. Ça relate les mêmes événements, mais avec quelques précisions. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui était crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. À la lecture de ces deux passages, on peut avoir du mal à comprendre que les disciples aient douté de tout, alors qu'ils avaient côtoyé Jésus pendant 3 années, qu'ils avaient vu les miracles, cru en lui, et avaient été enseignés. Mais pour eux, c'était un choc profond avec la crucifixion de Jésus et la désillusion d'un Seigneur qu'ils avaient imaginé glorieux, alors que là, il avait été crucifié et mis au tombeau. Et puis, il y a aussi l'incrédulité dans la chambre haute. On prendra quelques versets dans Luc 24, les versets 36 à 41. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Là, on voit les disciples qui sont incrédules devant Jésus. Et puis, on lira encore un court passage dans Jean 20, les versets 20 à 29, qui est Thomas, enfin, l'exemple de Thomas. Jean 20, versets 20 à 29. Alors, Jésus apparaît aux disciples. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ces épisodes que nous venons de lire nous montrent que les disciples étaient des hommes avant tout, avec leurs doutes. Ça a été mis en évidence plusieurs fois. Mais Jésus ne les condamne pas, mais il va se révéler à eux. Dans la Bible, la crédulité peut être aussi un refus volontaire de faire confiance à Dieu, malgré l'épreuve de sa présence et de ses actions envers nous. Alors, quelles sont les causes de la crédulité? Pourquoi la crédulité peut-elle nous toucher? Tout d'abord, il n'y a pas d'ordre forcément, mais disons l'endurcissement du cœur qui devient insensible à la parole. On peut se rappeler le peuple d'Israël dans le désert qui doute constamment malgré les miracles. C'est tout ce qui est relaté dans l'Exode. Cet endurcissement vient d'un refus répété d'écouter Dieu. Et puis ce refus répété va nourrir et fortifier notre incrédulité. Plus nous refuserons, plus l'incrédulité sera présente. Et puis la crédulité, ça peut être également la peur, comme Pierre qui reniera 3 fois Jésus, parce qu'il était accusé de faire partie de ceux qui le suivaient. Il y a aussi l'orgueil qui peut générer l'incrédulité. Jacques 4, verset 6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu ne nous éclairera plus s'il nous résiste, notre incrédulité augmentera. Moins nous serons éclairés, plus nous serons incrédules. Il peut y avoir aussi le manque de connaissance de Dieu. Proverbe 2:6 nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Moins nous connaîtrons le Seigneur, moins nous connaîtrons la connaissance qui sort de sa bouche, donc de sa parole. Dans les causes de l'incrédulité, il y a aussi les circonstances visibles. Les disciples dans la barque regardent aux circonstances et non à Jésus. Et puis il peut y avoir un cœur endurci et le doute. Jacques 1, verset 6 nous dit « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Toutes ces causes sont interliées entre elles, si on peut dire. Mais toutes ces causes génèrent de l'incrédulité. Puis on prendra encore, disons que, on se dit en lisant la parole, on se dit, ben, elle nous est adressée, mais elle est adressée à tout le monde. Mais on peut prendre un exemple où la parole de Dieu a été adressée directement à quelqu'un, ce qui n'a pas empêché l'incrédulité d'apparaître. On prendra dans Luc 1, ça doit être les versets 11 à 20, si je ne me trompe pas, l'exemple de Zacharie. Zacharie, qui est un sacrificateur, alors à partir du verset 11. « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Ici, Zacharie n'a pas cru aux paroles de Dieu, malgré qu'elles lui soient adressées personnellement. Un ange est venu lui parler, mais le doute est là. Le doute est là quand il dit « car je suis vieux ». Donc il remet en cause, si on peut dire, ce qui vient de lui être annoncé. Et puis, l'incrédulité est un combat intérieur. Et ce n'est pas forcément dire que Dieu n'existe pas, être incrédule. Mais c'est douter de sa parole, hésiter à lui faire confiance, regarder plus aux circonstances qu'à Dieu lui-même. C'est ce qu'on a dit, les disciples doutent malgré la présence de Jésus dans la barque et disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Le Seigneur est avec eux, mais il regarde aux circonstances. Donc toute la puissance de Jésus qu'ils avaient pu voir auparavant, à travers les miracles qu'il avait faits, à partir du moment où ça les touche, ils sont dans la barque, ils sont incrédules sur l'issue de leur petit voyage sur les flots. Et on peut citer aussi le peuple d'Israël dans le désert, on en a vaguement parlé tout de suite. Dieu fait des miracles en ouvrant la mer Rouge, en donnant la manne, mais le peuple perdra la promesse de Dieu à cause de son incrédulité. Nous avons aussi Pierre qui marche sur l'eau, qui regarde au vent et commence à s'enfoncer. Son regard n'était plus tourné vers Jésus, qui lui dira dans Matthieu 14, verset 31, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et puis Thomas, dont on a lu le récit tout de suite, qui veut voir parce qu'il ne croit pas autrement, s'il ne voit pas. Tous ces exemples montrent que le doute s'installe très facilement. Alors quelles sont les conséquences de l'incrédulité ? Tout d'abord, c'est la séparation d'avec Dieu. L'incrédulité empêche une relation vivante avec Dieu, car elle est empreinte de doute. Hébreux 3, verset 12, nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un en vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Se détourner du Dieu vivant, on pourrait dire « c'est une folie ». Mais c'est quand même écrit dans Hébreux 3, 12, donc l'incrédulité peut nous y pousser. Tout dépend ce qu'on appelle se détourner, mais se détourner suffisamment pour ne plus le suivre. Et puis, les conséquences, ça peut être la perte de bénédiction. On l'a vu dans l'Exode par rapport au peuple d'Israël. Car Dieu va agir en réponse à la foi. Et pour nous, c'est pareil. Dieu agit en réponse à notre foi. Et les conséquences, c'est l'éloignement spirituel avec Dieu aussi. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De notre cœur viennent les sources de la vie. Et Jean 12, verset 35, Jésus leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » C'est l'incrédulité nous coupe du Dieu vivant, nous marchons dans les ténèbres. Donc nous ne savons pas où nous allons. Sans la foi, la vie devient confuse, instable, tourmentée. La perte de foi qui peut être due à l'incrédulité produit cela. Sans la prière, le lien spirituel se distend et peut se rompre. Et puis dans les conséquences, il y a le jugement de Dieu. L'incrédulité constante et complète peut conduire au jugement. Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Celui qui ne croira pas sera condamné. Une incrédulité constante remet en cause la foi. Et puis, ça conduit aussi à l'impossibilité de plaire à Dieu. Sans la foi, toutes nos actions pour Dieu perdent leur valeur, car elles ne sont plus conduites selon sa volonté. Hébreux 11, verset 6 nous dit « sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc une foi, évidemment, débarrassée d'incrédulité. Et puis, les conséquences, ça peut être aussi la désobéissance aux commandements de Dieu qui sont dictés dans sa parole. Tout ce que l'on vient de dire sont les conséquences de l'incrédulité. La liste n'est pas forcément exhaustive, pas la prétention, mais tout ceci peut nous montrer que l'incrédulité produit cela. Alors, peut-être à différentes doses, mais nous n'avons plus la relation que nous devrions avoir. Alors, après, on pourrait dire comment combattre et vaincre cette incrédulité. La parole nous le lit, enfin nous enseigne sur plusieurs thèmes. Tout d'abord, écouter la parole de Dieu. Ça paraît évident, mais Romains 10, 17 nous dit ainsi, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, si nous n'entendons pas la parole de Dieu, nous sommes coupés de ce qu'il a à nous enseigner. Et puis, prier avec sincérité et engagement. Pour lire quelques versets dans Marc 9, les versets 20 à 24. Marc 9, versets 20 à 24. C'est quand Jésus chasse un esprit mauvais. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Tout est possible à celui qui croit. Et puis, pour combattre l'incrédulité, se rappeler et remettre devant nos yeux les œuvres de Dieu, comme Israël aurait dû le faire au désert. Vivre en obéissant à la parole de Dieu, car l'obéissance renforce notre foi. 1 Pierre 1,14 « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » L'obéissance à la parole de Dieu renforce notre foi, donc diminue notre incrédulité. Et puis fixez les yeux sur Jésus. Hébreux 12, versets 1 et 2, je vous le lis. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'incrédulité est un défi de tous les jours dans notre vie. Mais ce n'est pas un état permanent pour nous. Par contre, elle peut nous atteindre dans les grandes choses comme dans les petites. L'incrédulité n'est pas liée à des événements particuliers que l'on jugerait négatifs, et en disant pourquoi, et donc derrière, perdre de la foi. Cette incrédulité peut agir aussi dans les petites choses. Parce que nous pensons que nous sommes mieux armés et supérieurs au Seigneur pour les résoudre. Mais Dieu offre des solutions à travers sa parole pour soutenir le chrétien face aux doutes. Il veut renforcer notre foi, nous montrer sa fidélité. L'incrédulité peut être surmontée et vaincue par la prière, la lecture et la méditation de la parole avec une foi sincère en Dieu. Ce que nous avons vu au travers des versets que l'on a cités tout à l'heure. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce verset que nous avons lu tout de suite. Et Dieu montre dans sa parole la puissance de la foi lorsqu'elle remplace l'incrédulité. Passage où les disciples n'ont pu guérir un enfant lunatique. Et puis Matthieu 17, 20 ne résume pas, mais nous donne quand même une vision quand même très, très grandiose de l'incrédulité. Mais s'il n'y avait pas d'incrédulité, que pourrions-nous faire ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Et Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi ? Parce que notre foi est placée dans celui pour qui rien n'est impossible. Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu et que nous avons une foi pleine et entière, Marc 9, 23 nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». L'ennemi fera tout pour nous rendre incrédules. Ne nous faisons pas d'illusions à ce niveau-là. Mais nous avons tout à notre disposition pour résister. Et je dirais que pour résumer, peut-être, pas pour résumer ce qu'on vient de dire, mais pour montrer ce que nous avons à notre disposition, on pourra reprendre les versets 11 à 18 de Éphésiens 6. Éphésiens 6, l'armure du combattant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ces quelques versets nous donnent les armes, c'est ce qui est dit, pour renforcer notre foi et pour vaincre et combattre l'incrédulité. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir.